8h45 à Paris, notre invité ce matin avec nous au téléphone, le lieutenant-colonel Michaël Bernier, porte-parole de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises. Bonjour à vous.
Bonjour.
Après le drame à Beyrouth, l'aide internationale commence à arriver au Liban. La France a envoyé 3 avions hier avec des hommes et du matériel. 55 hommes de la sécurité civile française, 9 marins-pompiers de Marseille sont aujourd'hui sur place. Que viennent-ils faire ?
Alors en fait, ils viennent sur une mission très précise qui est d'aider les secours libanais sur place à Beyrouth avec des missions de reconnaissance et de recherche des victimes qui pourraient être ensevelies sous les décombres pour pouvoir, un, les localiser, deux, les sortir au plus vite et les envoyer vers les structures hospitalières pour les blessés qu'ils nécessiteront.
Ça veut dire que c'est une mission qui ressemble à ce qui se passe après un tremblement de terre ?
Exactement, on est dans ce type de mission. Mais une mission qui va être plus complexe, parce que l'origine, c'est une explosion avec une onde de choc qui a pu déjà blesser des victimes à l'avance, c'est-à-dire qu'ils ont pu, avec l'onde de choc, avoir des troubles physiques qui peuvent aller de la perte d'audition à des problèmes respiratoires aigus, avant même d'avoir les effondrements sur eux. Et puis, une complexité supplémentaire, parce que si nous avons une ouïe qui va sentir l'odeur de fumée pendant quelques minutes, voire quelques heures, les chiens, eux, les particules qui ont été poussées par l'explosion, qui se sont déposées partout, ils les sentent très bien. Et donc même le travail des chiens en recherche de personnes va être plus complet.
Oui, donc ça va être complexe à la fois pour les hommes, pour les chiens qui les accompagnent. Difficulté, vous nous disiez, d'audition possible du fait du souffle, hein, des explosions. Ça veut dire que des personnes ensevelies sous terre ou sous les décombres pourraient ne pas entendre les appels qui sont faits quand des équipes s'approchent.
Exactement. Nous sommes exactement dans cette situation-là. Il va vraiment falloir être très minutieux dans les recherches, sans compter les risques d'effondrement de bâtiments qui ne sont pas encore tombés, mais qui se fissurent. On entendait parler hier soir un expert sur place qui disait que des bâtiments qui ne présentaient quasiment aucun dommage quelques heures après l'explosion commençaient à menacer de ruines et à se fissurer. La possibilité, c'est pour ça que nous avons aussi une équipe spécialisée dans le risque technologique, de se retrouver face à des substances toxiques, par exemple, qui auraient pu simplement une réserve se fendre ou avoir une fuite. Oui. Voilà, il y a énormément de travail à faire et c'est une course contre la montre qui est engagée.
Est-ce que le risque chimique que vous évoquiez peut compliquer les choses, hein ? Ce seraient des tonnes de nitrate d'ammonium qui ont explosé mardi.
Alors, le nitrate d'ammonium lui-même, maintenant, il a explosé. On a vu tout de suite après le nuage, mais c'est un nuage qui n'est pas resté stagnant. Le risque, il est dans les industries, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des citernes de produits chimiques utilisés dans telle ou telle production et qui soient abîmées, qui fuient, ou qui risquent d'avoir une poutre ou un effondrement sur elles-mêmes. Donc, oui, ce risque-là existe. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a une équipe technologique qui commence par faire une levée de doute pour que les équipes puissent travailler en sécurité à la recherche des personnes.
Et est-ce qu'on peut encore retrouver des survivants dans les décombres ? On est près de 40 heures maintenant après ces explosions.
Oui, je pense très sincèrement qu'on est encore en capacité de trouver des survivants. Les heures qui passent jouent en défaveur de ces survivants. C'est clair que chaque heure qui passe fait diminuer leur espérance de vie, mais vous pouvez avoir des gens qui se trouvent dans des zones, on va dire, quasiment protégées, c'est-à-dire des refuges qui ont été créés par les effondrements, et puis avec à proximité d'eux la possibilité de s'hydrater, de l'eau, un robinet qui coule ou qui est encore en état. Donc effectivement, ils le peuvent. Malheureusement, les températures, l'accident lui-même, comme je vous disais tout à l'heure, le premier choc lié au pic de surpression et à l'onde de choc de l'explosion, font que les minutes s'égrènent très rapidement et diminuent très rapidement leur capacité à survivre.
Oui. Lieutenant-colonel Michaël Bernier, est-ce que vous avez déjà des premiers retours des hommes qui sont arrivés à Beyrouth ? Est-ce que l'on sait où en est leur mission ?
Alors, ils sont arrivés hier soir à Beyrouth. Très rapidement, le chef de détachement était avec les autorités libanaises pour connaître ses missions, la zone de travail, les personnes qui vont travailler, comment ça s'est passé. Une partie du détachement installe leur base de vie, déploie le matériel et d'autres équipes, je pense, sont déjà engagées sur des reconnaissances sur le terrain en fonction des ordres et des demandes des autorités libanaises. À partir du moment où ils ont posé le pied sur le sol libanais, ils sont partis dans cette mission de secours et au travail, et déjà toute la nuit, ils se sont activés sur le terrain.
Alors, on parle donc de 55 personnes, hein, 55 membres de la sécurité civile, pour l'heure. Est-ce que ça n'est pas une goutte d'eau dans un océan de désolation? On a vu que Beyrouth était une ville totalement ou quasiment totalement sinistrée.
Alors non, ce n'est pas une goutte d'eau, parce que déjà, c'est un 55 personnes, c'est un groupe constitué très clairement au titre des normes internationales, ce qu'on appelle la norme INSARAI. C'est celle qui permet à toutes les équipes mondiales sur ce type d'événement de travailler en même temps, avec les mêmes méthodes, des matériels compatibles et un même fonctionnement hiérarchique.
Oui, parce que donc chaque groupe, il y a la coordination, c'est très important là. Hein.
Exactement, il y a une très grosse coordination de fait, on va travailler tous de la même manière et avec des zones. Et ces zones sont déterminées en fonction des capacités de ces groupes, qui sont connus dans leurs capacités. On sait exactement ce qu'ils peuvent faire, en combien d'heures, en combien de jours, en fonction de ce qu'ils vont trouver. Et non, ce n'est pas une goutte d'eau, parce que vous ne pouvez pas non plus lancer des gens dans toutes les maisons, partout, à travailler des centaines de personnes, parce qu'on a malheureusement un risque d'effet domino. On va avoir du matériel très lourd et très dangereux d'utiliser quand vous allez lever une dalle de béton, quand vous allez couper une dalle de béton pour aller chercher quelqu'un. Vous pouvez pas avoir quelqu'un de l'autre côté du mur qui sait pas ce que vous êtes en train de faire.
On parle de coordination, lieutenant-colonel. La France n'est pas la seule à proposer et apporter son aide au Liban. Hein. Le Koweït achemine de l'aide médicale. Il y a des hôpitaux de campagne annoncés par l'Égypte, le Qatar, la Jordanie. Des secouristes qui arrivent en provenance d'Italie, des Pays-Bas, de République tchèque, de Grèce, de Chypre, de Turquie, d'Algérie notamment. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'embouteillage après une catastrophe de ce genre ?
Non, parce que les pays répondent actuellement aux demandes de l'État libanais. Vous n'envoyez pas, par exemple, la France, ce qu'on a envoyé comme moyen. Nous n'avons pas décidé de dire nous allons prendre une section de 55 hommes et puis la mettre dans un avion et l'envoyer là-bas. Non. Dès que le président de la République a proposé l'aide française, les relations se sont faites par le biais du ministère des Affaires étrangères et ensuite entre les techniciens de la sécurité civile et les opérateurs de secours sur place libanais. Et nous répondons à leurs besoins, c'est-à-dire que nous n'allons pas avec du matériel pris au hasard. Nous avons, comme les autres pays, répondu à ce dont ils avaient besoin.
Donc là, c'est bien une première aide française. S'il y a lieu, il peut y avoir d'autres équipes envoyées sur place ?
Vous avez entendu comme moi le président de la République qui s'est clairement exprimé en disant que nous répondrons autant que possible dans le cadre de la solidarité que la France exprime au Liban, avec les moyens, et nous répondrons aux demandes du Liban, si nous pouvons le faire.
Merci beaucoup, lieutenant-colonel Michael Bernier. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin.
Je vous en prie, bonne journée.
Et je rappelle que vous êtes porte-parole de la sécurité civile française.